le mouvement, il est, on repousse vers le haut. D'accord? Si c'était la pluie, alors on devrait protéger pour qu'elle ne tombe pas. Mais là, on repousse comme si elles étaient en bas, il faut les renvoyer vers le haut. Vous les renvoyez la rosée dans le monde en haut. Donc on voit que ces opérations qui sont faites avec le Homer, elles sont fondamentales sur, en même temps sur deux plans, sur le plan de la reconnaissance par rapport à Hachem et sur le plan de la gestion en quelque sorte du monde. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce qu'Hachem nous donne. Ben, il y a effectivement dans ce qu'Hachem donne, il y a des choses qu'on veut avoir, mais il y a des choses qu'il faut repousser. Alors c'est intéressant de voir que le problème, c'est pas de faire venir les choses, mais c'est de repousser les choses qui sont mauvaises. C'est le travail qu'on fait avec ce Homer. C'est pas le travail de faire descendre, on ne prie pas pour que la pluie tombe, que le soleil luise, etc. On prie pour repousser, enfin, on fait des gestes pour repousser les choses qui seraient mauvaises. C'est intéressant, on entre en Eretz Israël et donc on est en train de faire le tour, si vous voulez, de regarder exactement qu'est-ce qu'on fait avec ce Homer. Alors, on a déjà dit pas mal de choses sur le Homer. Et maintenant, on dit, voilà, le Homer, il sert à gérer. On est au début de la récolte. Et donc, ce qui pourrait être très mauvais pour la récolte maintenant, c'est justement les mauvais vents et les mauvaises rosées. Encore une fois, je ne suis pas très au clair sur ce que sont ces mauvaises rosées. J'ai entendu dire que c'est Ezra qui nous a dit que les éleveurs, il y avait des moments où ils ne mettaient pas les bêtes, enfin, ils ne laissaient pas les bêtes brouter à cause des mauvaises rosées, c'est-à-dire que plutôt il fallait éviter les rosées du matin ou les rosées du soir. Bon, j'ai pas plus. Pas exactement, tu comprends rien, quoi. Bon, il y a visiblement des mauvaises rosées. Partie encore des gens qui s'imaginent que la rosée est toujours positive. Jusqu'à ce que je vois ce midrash, j'ai toujours pensé comme ça. Oui, on peut imaginer qu'elles sont à contre-temps, quoi, quelque part. Pardon?
Le seul qui est responsable des bêtes, c'est que les gouttes de rosée peuvent tomber des parasites.
Ah.
Donc,
Oui, alors ça peut être des parasites pour les végétaux aussi, quoi, quelque part.
c'est pas tout.
Non, il faut savoir quelles sont les mauvaises. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on repousse les mauvaises rosées, pas la rosée en général, les mauvaises. Alors, on fait les gestes. Nous, on fait les gestes comme ça, pour repousser les mauvaises. Comment est-ce que ces gestes, ils ne fonctionnent que pour les mauvaises? On repousse pas systématiquement toute la rosée. Et de la même manière, on ne repousse pas tous les vents. Il y a des vents qui sont absolument nécessaires, profitables, etc. Ça, on laisse à Hachem, c'est Hachem qui va gérer. Nous, on fait juste on montre qu'on est conscient qu'il y en a des bonnes et des mauvaises. À la limite, c'est comme si on disait à Hachem, OK, il y en a des mauvaises. Nous, on est contre les mauvaises. Maintenant, débrouille-toi pour nous envoyer que les bonnes, quoi. On va passer au numéro suivant. Amar Rabbi Abun, Rabbi Nechemia, Rabbi Yaakov Barabba, Beshem Rabbi Yuda, Rabbi Simon, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish. Alors, c'est des maîtres, un ensemble de maîtres qui citent une machloket. Traditionnellement, il y a une machloket entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Ils sont des beaux-frères, mais ils sont souvent d'opinions divergentes. Rabbi Yochanan Amar, Le'olam alti mitzvata omer kala be'enecha, Alors là, voilà, ils vont dire des grandes choses, il faut vraiment. Rabbi Yochanan, c'est le grand maître du judaïsme israélien de l'époque des Amoraïm, l'époque de la Gemara. C'est lui le grand maître. Il est le maître de Reish Lakish, mais Reish Lakish est devenu, après avoir été son élève, il est devenu son collègue. Rabbi Reish Lakish a fait une carrière extraordinaire, il est devenu son collègue et il est pratiquement à la même hauteur que son maître. Mais bon, ça a fini tragiquement. Compréhensible d'ailleurs. Alors, Rabbi Yochanan dit, ne prends pas la mitzvah de Omer à la légère. Shaliyede mitzvah ta Omer, zacha Abraham lirash et eretz Kenan. Parce que qu'est-ce qui a qualifié Abraham Avinu pour hériter de la terre de Canaan? C'est la mitzvah ta Omer. Adao dirtiv, venatati lecha ulzaracha parecha, almenat veata et briti tishmor. Ve'eze ze mitzvah ta'omer. Donc c'est construit comme ça. Le Midrash amène un passouk qui dit, je donnerai cette terre à tes descendants. Et il y a un autre passouk que le Midrash considère comme étant la condition pour le cadeau m'est donné ce pays. C'est le verset qui dit Ve'ata et briti tishmor. Et toi, mon alliance, garde-la. Nous, quand on entend parler d'une alliance pour Abraham Avinu, à quoi on pense? À la Brit Mila, ouais. Ben, le Midrash, il pense pas comme ça. Le Midrash, il pense que l'alliance, c'est l'alliance qui est faite avec le Omer. C'est la mitzvah du Omer. Ben, qu'on comprenne où est-ce qu'on voit que la mitzvah du Homer est un brit, une alliance. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Reish Lakish, lui, il dit, Amar, Leolam alti mitzvah ta Homer kala be'enecha. Même chose. Ne prends pas la mitzvah du Homer à la légère. Shealide mitzvah ta Homer, asa kadosh baruchu shalom benish leishto. À cause de cette mitzvah du Homer, Hachem a fait le shalom entre un homme et sa femme. Donc, il y en a un qui dit, cette mitzvah-là, elle a à voir avec le don de la terre d'Israël. Et Reish Lakish, il dit plus techniquement, cette mitzvah, elle a à voir avec le fait qu'Hachem accepte ces fameuses ordalies là on peut donner à Hachem la tâche de régler les problèmes entre un homme et sa femme. Et cette mitzvah du Homer, c'est grâce à cette mitzvah du Homer qu'Hachem accepte de faire le shalom entre un homme et sa femme. Et bien, Omer, comment on va justifier ça? Bisrut kemar seorim. Qu'est-ce que c'est le lien entre le Omer et le shalom entre un homme et sa femme? De quoi est-ce qu'on parle? On parle de la parashat Sota. On parle de la situation dans laquelle un homme a dit à sa femme, Je veux pas que tu, je veux pas que tu t'isoles avec Toto. Il lui a dit ça devant témoin. Et il y a deux possibilités. Bon, a priori, cet homme, à tort ou à raison, il soupçonne sa femme de quelque chose avec Toto. Et cette femme, là, il y a deux possibilités. Ou effectivement, Toto est son amant, et donc elle va s'isoler avec lui, tant pis pour ce que son mari a dit. Ou bien, hein, elle va s'isoler avec lui en disant, mais quelle chutzpah de mon mari de me soupçonner, il se passe évidemment rien du tout, et je peux très bien m'isoler avec Toto, ça bougera, il va rien se passer du tout. Et elle va s'isoler avec Toto. Alors, la vérité, c'est que elle fait un issour ici en s'isolant avec Toto. Mais c'est pas un issour qui empêche un homme de vivre avec sa femme. Si une femme s'isole avec un homme qui n'est pas son mari, l'isolement lui-même, c'est interdit, mais ça rend pas la femme interdite à son mari. Mais lui, ben donc, elle pense, elle est vexée qu'on la soupçonne de quelque chose. Donc, elle dit, je vais te bien montrer que je peux très bien m'isoler avec Toto, il ne se passera rien. Avec
Il doit pas
ça,
être un peu
pardon?
il doit pas être un peu mentorique, mais
Le Toto en question, on ne sait
il
pas.
accepte
Oui,
d'être en
ben.
couple avec une femme.
OK. On ne parle pas de Toto. On en a fini avec Toto. Maintenant, voilà. Donc maintenant, si cet homme, donc maintenant ils sont coincés parce que comme il l'avait averti en public devant deux témoins, elle s'est isolée devant des témoins. Les témoins ont vu qu'elle s'est isolée. Ils n'ont pas vu qu'il s'est passé quoi que ce soit. Ils ont vu simplement qu'elle est entrée dans une maison et dans cette maison, il y avait Toto. Elle a fermé la porte. Il y a deux témoins. Et donc maintenant, lui, le mari, il va au tribunal avec sa femme. Il dit, voilà, j'ai des témoins, j'ai averti ma femme et elle a passé outre. Il y a des témoins qu'elle a passé outre. On regarde, on vérifie si c'est vrai, on vérifie les témoins, etc. Et le cas échéant, le mari et sa femme doivent aller à Yerushalayim parce que c'est une question qui est réglée seulement par les Kohanim, donc par le Beit Din d'Yerushalayim. Alors l'homme, il va au Beit Din à Yerushalayim et ça met en marche une procédure. Et dans la procédure, ça commence par le fait que l'homme va apporter un korban pour sa femme. Un korban, c'est en fait c'est une offrande, une mincha. C'est une mincha en seorim, c'est-à-dire en orge. Il va apporter une galette en orge pour sa femme. Et ça, c'est le début de la procédure. Et ensuite, il y a la procédure que vous connaissez probablement, un peu, qui est décrite. On va interroger la femme, on va lui dire si s'est passé quelque chose, il vaut mieux que tu dises que tu n'es même pas obligé d'avouer quoi que ce soit. La femme, elle peut dire je ne veux pas continuer la procédure. Dans ce cas-là, elle doit accepter le divorce. C'est tout. Le divorce est à sa charge. C'est-à-dire, c'est un divorce et c'est elle elle va pas recevoir des compensations. C'est des problèmes d'argent, quoi. C'est tout. Elle divorce. Mais c'est tout, il ne se passe rien. Maintenant, si elle dit je veux continuer, alors on fait toutes sortes de choses. On n'a pas du tout envie qu'elle continue. Parce qu'on a très peur qu'elle soit adultère et que si elle est adultère, ça va mal finir. On préférerait que s'il s'est passé quelque chose, elle n'est pas du tout obligée de dire, elle peut seulement dire j'ai peur de cette procédure, j'ai pas envie. Et ça peut être très vrai. C'est une procédure qui est dégradante, qui etc. Elle dit, moi, tant pis, je préfère divorcer que d'en passer par là. Mais si elle continue, alors on va écrire la paracha de la Sota, telle qu'elle est écrite dans le Sefer Torah. On va la réécrire sur un parchemin et on va effacer le texte en question en la mettant dans de l'eau, mettant ce texte dans de l'eau. En gros, on va prendre de l'eau, un peu de poussière, etc. Et la femme, elle va boire cette mixture-là. Le problème, c'est que dans la paracha de la Sota, il y a le nom d'Hachem. Dans le texte de la Torah qui parle de la Sota, il y a le nom d'Hachem. Et quand on copie le nom d'Hachem. Et donc quand on efface le Shem Hachem. Ça veut dire qu'Hachem accepte qu'on efface son nom. Et là, vous voyez bien, toute la procédure, elle est faite pour le shalom, elle n'est pas faite pour une sanction. Hachem accepte de faire tout ce qu'il fait. Ce qu'il va faire ici, c'est Hachem, c'est un homme qui, au lieu de trancher, si tu soupçonnes ta femme, eh bien, divorce. Si tu veux. Et si tu la soupçonnes pas, ne divorce pas, mais il vient Hachem, règle-moi mon problème. On parle d'un règlement qui n'est possible que si l'homme de son côté est tout à fait OK. Si lui, il a des comportements qui ne sont pas non plus normaux, ça va pas marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui ne se vit pas bien, même si elle est adultère, elle va boire la mixture en question, il va rien se passer. Mais quand elle a bu, quand cette femme elle boit et qu'il ne s'est rien passé, il est lui obligé de vivre avec elle. Elle est son épouse. Elle peut dire, je ne veux pas continuer. Elle peut divorcer. Mais lui, il ne peut plus jamais divorcer. Tu as demandé à Hachem, Hachem t'a dit, c'est OK, il ne peut plus divorcer. À vie. Elle peut partir quand elle veut. Sur place ou plus tard, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est libre.
Lui n'a pas de punition.
Pardon?
Lui, il n'a pas de punition s'il n'est pas net et qu'il demande cette
Non,
procédure.
mais la procédure, c'est une procédure qui touche le problème de l'adultère. Et n'est vraiment adultère, passible, mort, que une femme ou l'homme qui va avec une femme qui est elle adultère, alors il est aussi adultère. Mais si lui, il a soupçonné sa femme à tort, ben, c'est un vilain garçon, mais ce qui va lui arriver, c'est qu'il va être obligé de vivre avec cette femme, ou de l'entretenir en tout cas, jusqu'à la fin de ses jours.
Donc, en fait, si lui, il ne se conduit pas bien avec elle, en fait, elle était vraiment adultère, ça
Même si
va.
elle était adultère, la Torah va dire, vous pouvez vivre ensemble.
L'eau, elle va pas.
Elle va rien faire, l'eau va rien faire.
Alors, à une époque, les hommes avaient le droit d'avoir plusieurs femmes, mais si c'est l'inverse, en fait, la femme, elle est complètement nette et elle soupçonne son mari de elle sait
Il
qu'il.
va rien se passer.
Non, mais du coup, elle ne peut pas reprocher, elle ne peut pas aller au tribunal, elle ne peut pas dire
Il n'y a pas de.
soldat pour les monsieur. Voilà, il n'y a pas l'inverse.
Non, il y a pas. Ça n'existe pas dans l'autre sens parce que, comme je vous ai dit, l'homme. Il est fautif si lui, par exemple, il a un rapport adultère, mais qu'avec une femme qui n'est pas mariée. Alors, il n'est pas passible de mort. Parce que la femme n'est pas mariée. Lui, il serait passible de mort seulement s'il est avec une femme qui est une erva. C'est-à-dire, c'est une femme mariée ou sa mère ou sa fille ou sa sœur.
Et s'il fait ça, et qu'il passe, par exemple, il serait reconnu, il aurait le reproche de l'autre côté.
Si, il va être là, il est passible de mort. si elle était moi qui l'a été avec elle.
Mais sa femme, elle peut se plaindre.
C'est pas elle, elle peut se plaindre, mais c'est pas, c'est les témoins qui, si elle est témoin que lui, il est allé avec une femme qui lui est interdite, c'est indépendamment de la femme, il va être condamné à mort.
Il faut qu'il sache. Si elle le cache, je pense à Tamara. Si elle avait été mariée, ça ne savait pas qu'elle était. Donc elle aurait pu être une femme mariée sans qu'il le sache. Est-ce que dans ce cas-là, il est puni?
Non, je crois que les prostituées, elles n'étaient pas mariées. On ne pense pas que la prostituée est mariée.
Quand on arrive à ne pas rentrer dans le projet, c'est quand même pas cohérent parce que je veux très bien imaginer qu'elle a été bloquée le divorce, mais elle est toujours en mariage puisqu'elle a été suspectée et qu'elle n'est pas été
Ah, peut-être qu'on n'en sait rien, parce que la Torah, elle dit explicitement que le type, il est, ou bien c'est un parano, ou bien il a raison. Mais la Torah, elle dit pas qu'il a raison. La Torah dit, un homme, il lui passe par la tête d'interdire à sa femme. Mais bon, il est peut-être un parano. C'est pas sûr du tout. Ben alors, les gens sont libres de vouloir ou de pas vouloir, on sait rien. Mais on ne peut pas dire que cette femme, elle n'est pas soupçonnée obligatoirement à bon escient, quoi.
quand même. Elle va soupçonner, mais elle a poussé le bouchon parce
Elle a
qu'elle a poussé un peu le bouchon parce que.
poussé le bouchon parce qu'elle était vexée. Alors, ce n'est pas intelligent. Elle a été vexée, que tu me soupçonnes, c'est un scandale.
Non, ma femme.
Alors, je vais montrer qu'il n'en est rien. Elle n'a pas réfléchi peut-être plus loin que le bout de son nez. Qu'avec ça, elle risque de mettre en marche une procédure. C'est tout. Il faut imaginer que moi, je comprends très bien, on peut très bien comprendre que la femme est vexée d'être soupçonnée d'une chose pareille.
Vu la gravité de la chose,
Oui, non, mais la
le
femme, elle n'a
parano
peut-être
s'est
pas
dit très
pris
bien.
conscience de la gravité de la chose et dans l'impulsion, dans le, elle était vexée, le furax, etc. Elle s'est isolée avec Toto. Toto, il est totalement indifférent. Elle n'a jamais eu de... Bon, c'est tout. Bon, alors, Reish Lakish dit, c'est grâce à la mitzvah du Homer qui a, avec la procédure dont on a parlé, en commun que le fait que au tout début de la procédure, on amène une mincha qui est en séorim, qui est en orge. C'est ça le point commun entre le Homer et ça. Le Homer, c'est aussi une mincha en orge. Et là, c'est une mincha en or, c'est tout. Reish Lakish dit, c'est par le mérite de... Pardon?
Claire
C'est par le mérite de la mitzvah du Homer que Hachem a accepté de faire le shalom entre un homme et une femme. C'est intéressant qu'on appelle ça faire le shalom. Bon, parce que même si ça sort bien, voilà, j'ai quand même un couple dans lequel... Il y a eu un certain type de tension, d'accord, qui effectivement, je sais pas, j'arrive pas vraiment à comprendre comment ils peuvent vraiment revivre ensemble. Bon. Alors elle va avoir une bracha, si tout se passe bien, elle aura une bracha. C'est-à-dire que si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura. Si elle avait des garçons, elle voulait des filles, elle aura une fille. Si elle voulait des filles, elle voulait un garçon, elle aura un garçon. Elle aura dans ce domaine-là ce qu'elle veut. Une bracha, si tout se passe bien. Si vous voulez, c'est la confrontation. Le nom divin est en elle. Donc, ou bien elle est à la hauteur, alors ça fait une bracha, ou elle n'est pas à la hauteur, alors elle va mourir.
C'est que dans ces deux cas-là.
Deux? Oui. Non. Il y a une mincha de. Non, c'est dans ces cas-là. Alors, c'est ça, cette mitzvah. C'est très curieux, mais on ne voit rien dans cette mitzvah qui nous donne à penser que ça a à voir avec le problème du shalom. D'abord, comme je disais, moi, j'ai un peu l'impression que le mot shalom dans ce contexte-là, c'est presque un mot, je ne sais pas s'il est tellement adéquat d'appeler ça faire le shalom entre un homme et sa femme. Mais bon, le Midrash, il appelle ça faire le shalom. C'est-à-dire, finalement, la résultante, c'est qu'ils peuvent vivre ensemble. Et ça s'appelle le shalom. Si elle veut, ils peuvent vivre ensemble.
Le shalom ayant plusieurs sens, on garde dans ces cas-là que le sens de paix.
Si vous voulez,
La complétude, c'est que shalom
le
complet, que c'est le couple de bien complet.
non le chal, faire le shalom entre un homme et sa femme, ils étaient à une situation de non-shalom et maintenant ils ont retrouvé une situation de shalom. Pardon? Oui, alors. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ça lève les tensions un peu.
Hmm?
Ça lève la tension un petit peu, ça enlève la tension. On est en
Non, mais j'entends bien que ça, on peut appeler ça le shalom.
parce que le fait qu'elle ait si elle est une bracha et une bracha importante, ça veut dire quelque chose quand même.
Ça veut dire, elle a une bracha.
Oui, c'est
Mais
pas juste parce que.
qu'est-ce que ça dit sur le couple? Le couple est permis, alarguement, il est
Oui,
permis.
mais là, c'est pas ça. Il y aura toujours des enfants. Il y aura ce qu'elle veut. C'est pas mal quand même. C'est tout ça très fort comme bracha.
Non, mais je ne sais pas si quand on dit qu'elle aura ce qu'elle veut, est-ce que c'est obligatoirement avec lui? Peut-être elle veut se remarier, elle aura des enfants avec quelqu'un d'autre. C'est marqué nulle part que c'est avec lui.
Ça veut dire que cette procédure-là, la rend très particulière.
Oui, d'accord, mais elle. Mais shalom entre un homme et une femme, ça veut dire que on fait quelque chose entre deux personnes, pas en une.
Ça ne sous-entend pas que la brassin c'est avec lui.
Quoi?
Ça ne sous-entend pas que la brassin c'est avec lui. Ou en interrogation.
Je suis pas sûr. Ben, toi, tu entends,
Non,
moi,
mais
j'en.
puisqu'on dit que c'était pas marqué que Hachem fait le shalom entre le mari et la femme.
Il peut faire le shalom, ça veut dire qu'ils peuvent vivre ensemble.
Oui, mais alors ça,
Est-ce que.
si on disait que
Le
la parole
problème,
s'applique à
c'est
n'importe quel mari,
est-ce que la résultante, c'est que la femme, elle est heureuse d'avoir été soupçonnée à tort par son mari? Si vous voulez, à part Hana qui a menacé Hachem, quand il lui a dit, si tu ne me donnes pas d'enfant, je vais m'isoler avec quelqu'un d'autre et Elkana va. Je ne sais pas, elle pensait que quelqu'un va marcher. Je ne sais pas est-ce qu'il va marcher.
et tout
Mais,
entier avec elle.
et tu seras obligé de me donner, il ne se passera rien et tu seras obligé de me donner un enfant. Je connais personne d'autre qui a choisi ce mode c'est bien avant
Moi, j'ai
la
l'impression que
PMA, etc., quoi.
Non, mais c'est quand même une époque terrible, cette affaire, donc elle peut avoir du ressentiment de son mari.
Mais bien
Non,
sûr,
si elle a
c'est.
du ressentiment, ça peut être
Elle a
pas
du tout avoir.
à la limite, c'est son problème. Elle s'est isolée, alors qu'il lui a dit non, elle a du ressentiment, bah, elle assume. Mais moi, je vois ce qu'Hachem fait. Mais non, mais elle a
Il
beaucoup
vient
de
d'en
pouvoir
profiter,
maintenant.
c'est quand même.
Attends, parce qu'il lui a dit ne t'isole pas. Attends,
Mais si les
tu
trois côtés,
racontes déjà. Attends, non, ne dis pas qu'il est fou. On dit que
la
la
Torah, elle dit les deux, hein. La
norme
Torah,
est
elle
là.
envisage les deux.
Oui,
Elle envisage que, à tort ou à raison,
oui.
il la soupçonnait. Donc, il est peut-être
Je
parano.
ne sais pas. Je trouve que c'est pas notre façon là, parce que c'est si vous permettez. Hein, parce que quand vous en parlez, ça semble que vous voulez j'ai comme ça. Or, moi, je trouve qu'à chaque fois, il faut mettre des choses tellement fortes que c'est pas rien du tout.
Mais personne ne dit que c'est rien du tout.
Non,
Mais
mais.
ça la concerne, elle. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose sur son couple? La Torah n'a pas dit que le couple sera parfait. Elle dit rien de tel.
D'abord, parce que la Torah dit jamais de l'enfant, hein, le plus parfait, ça n'existe
Ben justement, ça veut dire ce que j'essaie de vous expliquer, mais visiblement, vous ne voulez pas l'entendre. Mais enfin, bon, vous pouvez garder ce que vous pensez. Moi, je pense, je suis très étonné que ça s'appelle d'abord le shalom. Je veux bien. Bon, bah, c'est. Je veux bien. Enfin, si la Torah elle dit que c'est simple. Le shalom, alors bah, c'est le shalom. C'est.
parce
Rish
que
Lakish, il sait ce qu'il dit, qu'on entend. Pas besoin de mon accord. Mais je trouve étonnant d'appeler ça vraiment le shalom. Parce que c'est vraiment. C'est vrai que c'est. Il y avait un état de guerre et c'est un état de non-guerre. Mais appeler ça un état de shalom. Pardon?
elle avait du ressentiment, et lui, il avait que ses résultats, c'est ça, à la fin. Il est allé soupçonner, et en essayant de.
Non, non, mais on peut imaginer que qu'il soit pas vexé. Il s'est dit, moi je savais pas, hein, bon, mais j'ai demandé à Hachem et Hachem m'a dit un tamim quoi, comme ça. Moi j'ai demandé à Hachem et Hachem m'a. Sinon, Dali, quand je pose la question à Hachem, terminé. Mais à ça, on ne comprend pas. Chez Rabbi Yochanan, on comprend un peu le raisonnement. Bon, Rabbi Yochanan, il dit, c'est un brite. Alors là aussi, on a un problème. Où est le brite dans le. Mais bon, à partir du moment où tu dis que c'est une alliance, alors on comprend que. Ça, si on met bout à bout, alors Abraham Avinu, effectivement, l'alliance qui lui a donné la terre, c'est une alliance qui a été, qui est faite par le biais de la mitzvah du Homer. Alors, bien entendu, il faut mettre le Homer en rapport avec la terre. C'est facile, c'est assez clair. Donc l'idée que Abraham Avinu il a été zoché à la terre d'Israël avec quelque chose qui a à voir avec le Homer, qui a à voir avec la terre, on n'a pas de difficulté à penser ça. C'est facile. Mais mettre en rapport le Homer avec le shalom entre un homme et une femme. Avec comme seul point de contact la notion que c'est de l'orge, alors ce qu'on peut essayer de dire, c'est la chose suivante. On a déjà un peu parlé de ça. On avait vu que ce que les Bnei Israël donnent à Hachem, vous vous souvenez, on avait dit, Hachem dit, moi, quand je vous ai nourri dans le désert, j'ai donné un homer de manne à chacun. Et maintenant, vous tous ensemble, vous allez me donner un homer et encore un homer de Séorim. Et on avait expliqué que dans la démarche de donner le homer de Séorim, il y a cette idée d'exprimer sa reconnaissance. Et puis d'entendre que Hachem valide les Séorim. Hachem dit, bien que ce soit des Séorim, je veux bien entendre que vous m'avez vraiment donné quelque chose et je ne vais pas mettre l'accent sur cela, sur le fait que les séorim, c'est une nourriture animale. C'est-à-dire, c'est séorim, ce n'est pas le chitim, ce n'est pas le blé. Et donc ici, il y a cette idée que Akadosh Baruch Hou, pourquoi il entend quelque chose ici dans cette mitzvah du Homer, enfin, c'est Reish Lakish qui entend que là il y a cette histoire du Seorim, 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 pourquoi le lien entre Seorim veut dire que Hachem va comme Hachem se contente des Seorim comme expression de la reconnaissance, ici se contente en quelque sorte, il va, avec cette toute petite chose-là, Hachem va s'investir pour la relation entre l'homme et la femme. Et, si vous voulez, ça veut dire que la relation entre, rétablir la relation entre l'homme et la femme, ça, c'est quelque chose qui a à voir par ce rime interposé, si vous voulez, ça a à voir avec l'expression de la Hakarat HaTov, l'expression de la Hakarat HaTov à l'égard de la chaîne. Et en fait, la relation de Hakarat HaTov, le problème de la Hakarat HaTov, où est-ce qu'il apparaît pour la première fois? Il apparaît justement dans la relation entre l'homme et sa femme. Alors, à mesure où, quand Hachem lui dit pourquoi tu as mangé, il dit c'est ma femme qui m'a donné à manger. Ça veut dire il y a quelque chose dans la relation entre l'homme et la femme qui est que la tendance, elle est de ne pas reconnaître que cette relation entre l'homme et la femme est une relation dans laquelle on doit à l'autre, il doit y avoir de la karat al-tov. Ça veut dire, qu'est-ce qui ne va pas dans une relation de couple qui ne marche pas? C'est que, essentiellement, on ne reconnaît pas ce que l'autre fait pour soi. Il y a une Gemara qui dit, si quelqu'un t'ouvre une porte, tu lui dois tout. Il a ouvert une porte, tu n'aurais pas pu passer s'il n'ouvre pas la porte. Et par conséquent, dans la relation de couple, ce qui est fondamental, c'est de considérer que ce que l'autre fait pour moi, c'est jamais, ça ne doit jamais être considéré comme l'autre ne fait que son job. L'autre ne fait que ce pourquoi, que ce qu'il doit faire de toute manière. Dans les deux sens. Et probablement que si effectivement il y a un problème de shalom entre eux, alors c'est un problème qu'ils ne reconnaissent pas chacun ce que l'autre fait pour lui. Et c'est ça le lien, me semble-t-il, entre la mitzvah entre le seorim de la mitzvah du Homer et le seorim de la qui parce qu'en vérité, on ne comprend pas du tout pourquoi l'homme doit apporter une offrande pour sa femme au début de la procédure. Pourquoi il apporte une offrande pour elle? C'est lui qui est en bisbise avec sa femme, il apporte au nom de la femme une offrande en seorim. Et là, on va expliquer son rime parce qu'elle s'est conduite. Il lui fait un. Il apporte quelque chose pour elle, mais avec une connotation. C'est un comportement animal là, que je soupçonne, effectivement. Donc, c'est ça le problème. C'est le problème, me semble-t-il, de la Karatatov. Il faut rétablir. Et c'est ça que Rishpakish dit, me semble-t-il. Et à ce moment-là, on comprend que ça a une super grande importance. Et on comprend le lien. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je comprends le lien entre les deux.
On ne peut pas dire ah, que l'homme apporte ce qu'il n'a pas pour sa femme, mais parce que à cause de sa femme, il y a le nom de Dieu qui va être passé. C'est finalement de s'excuser auprès d'Hachem en tant que sa
Et
femme.
pourquoi il appelle ça, non? Et pourquoi il apporte une offrande pour elle?
Parce qu'elle.
L'offrande, elle répare pas, elle répare rien du tout. Bon, parce que vous pouvez pas vous acquitter d'une avec vous amener une offrande. Si on efface le nom, c'est grave. Ça se règle pas avec une offrande.
Dans un autre contexte, j'arrive pour excuser, mais là, c'est pas.
C'est parfait. Je crois que c'est plutôt pour marquer le coup, j'ai l'impression.
Ah, franchement. Je vais avoir un. Ça veut dire que le geste des mains qu'on fait vis-à-vis de la chaîne et que le geste que fait le mari, sa femme, c'est un tout petit geste. Et c'est le lien entre ces deux petits gestes qui font que, comme de la manière que la chaîne accepte ce petit geste, comme une offrande l'accepte finalement, que ne fait pas grand chose, de la même manière, il accepte de se faire investir pour le chaland du couple, pour ce petit être aussi.
Oui, c'est-à-dire pour rétablir le shalom, c'est-à-dire rétablir la karatatov réciproque dans le couple. Donc ça a à voir avec le problème de la karatatov du Homer.
On ne voit jamais, mais on est toujours pour la raison pour les autres, on voit pas très bien.
Pardon, c'est
Le problème, c'est qu'on est toujours pour la raison pour les autres, mais on n'est pas ce que les autres sont pour nous. On est toujours pour les autres.
C'est intéressant de voir que dans ce problème-là, entre eux, c'est un problème de reconnaissance de la Karatatov, on demande à l'homme de faire quelque chose pour la femme. C'est lui qui amène un corban pour elle. On aurait pu dire, c'est elle qui doit l'amener. Pas, il y aurait des problèmes, est-ce qu'elle a de l'argent, etc. Mais c'est lui qui l'amène pour elle. Donc, c'est-à-dire, il fait quelque chose pour elle au moment où il va demander à Hachem de lui aussi, fait quelque chose pour nous, quoi. Demande à Hachem, fait quelque chose pour nous, moi, je fais un premier pas. C'est-à-dire, je sais pas vraiment si vous l'entendez comme ça, je sais pas si la femme, elle l'entendra comme ça, mais on pourrait dire, il fait un premier pas. Je fais quelque chose pour elle. La Torah lui impose de faire quelque chose pour elle. Mais encore, il faut comprendre pourquoi elle devrait apporter un corban. Il l'amène pour elle, mais pourquoi elle ne doit pas apporter un corban?
La fonction de ce corban, alors c'est quoi? Vous dites que ça ne.
Pardon?
La fonction de ce corban, c'est quoi?
Oui, mais bon, est-ce qu'elle va l'entendre c'est au début de la procédure? Peut-être, effectivement. Là, on comprend que pour Reish Lakish, d'une certaine manière, c'est comme ça. Cette mitzvah, Reish Lakish dit, elle est tellement importante que c'est à l'aider mitzvah ta'omer, que HaKadosh Baruch Hu fait le shalom. À l'aider mitzvah ta'omer. À l'aider, c'est étonnant quand même d'appeler ça à l'aider. Grâce à cette mitzvah, Abraham, il est droit à la terre, on comprend. Mais ici, grâce à cette mitzvah-là, ça veut dire parce que nous, on exprime, enfin, ce que j'ai essayé de. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant, parce que ça suffit. OK. Amar Rabbi Abaou, Rabbi Simon, Rabbi Yeshua ben Lévi, qui. Chez Amdalaem Bimei Gidon. Donc, cette mitzvah-là, elle a été positive pour les Bnei Israël à l'époque de Gidon. Gidon, c'est un des shoftim, un des juges, ouais, la période des juges. Marqué dans le pasouk, Vayavo Gidon, Veine Ish, ne s'appelle le Réhu. Il est arrivé et il a entendu qu'il y a un homme qui racontait à son prochain chalom, un rêve. Et il lui dit, Hine, chalom, chalamti, voici, j'ai rêvé un rêve. C'est les hébraïsmes, on dit, rêver un rêve, oui. Vene, tzlil en fait, ça veut dire une espèce de gâteau en orge. Maout Slil, littéralement, Slil, Lechem Seorim, c'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Rabbanan Amré, Al Salal Alehem, Oto Ador, Minatsadikim, Ubisrut Ma Nitsulu, Bisrut Lechem Seorim. Les Bnei Israël, à l'époque de Gidon, ils ont été sauvés grâce à cette mitzvah. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas suffisamment de tzadikim pour que les Bnei Israël méritent d'être sauvés. Vezu, sous mitzvah ta'omer. Donc, c'est bisrut lechem seorim. C'est ce qui a été écrit dans le texte de Gidon. Et on dit, ce lechem seorim, c'est la mitzvah ta'omer. Amar Shmuel Bar Nachman. La mitzvah ta'omer, elle était profitable, elle les a protégés aussi à l'époque de Chizkiyahou. Chizkiyahou, c'est la fin, non, la fin des grands rois du royaume de Yehuda. Chizkiyahou, c'est le cousin du Nabi Yeshayahou. C'est marqué dans le pasouk, Vaya kol ma'avar mate mosada, asher yaniach Hashem alav, betupim ubekinorot, ubmilchamot, tenufa nilcham bam, v'riyesh milchemet tenufa. Mais au Toador, est-ce que cette génération-là, il y avait milchemet tenufa? Une vraie guerre, quoi. Alors on dit, non, il n'y avait pas de guerre avec des hauts et des bas. Et Sanhérib est arrivé, il a gagné évidemment des guerres. Il y avait Omer, Zoum Mitzvata Omer. On parle de Milchemet Tenufa et Avec quoi on a gagné, ça veut dire? Quel était l'élément qui pourrait faire gagner? C'était la mitzvah Taomer. Et Rabbanan Amrou, Ishe Amdalahem Bimei Cheskel, cette mitzvah, elle est encore bénéfique à l'époque d'Yecheskel. Daoudirtiv, Vatakach Lecha Achitim ou Seorim, Hachem a dit à Yecheskel, prends du blé et de l'orge. Avchama bar Chalavta Amar, Rabba Ba'en Seorim. Il a mis plus d'orge que de chitim. Donc, Shmuel bar Nachman Amar, Rabba Ba'em Dvarim, Shein Meretzim Lifnei Mayim. Il a mis dedans des choses qui font aller à sel, quoi, pour la digestion. Shmuel Amar, Taman Amrin, là-bas on a dit, Avdin Mine, Kalba, Velo, Tama. Si on donne à goûter un chien, le chien ne le touchera pas.
Pardon, Rav.
Pardon,
On dit pas
Rav.
que Iskaïou a planté une épée et a déclaré que tout le peuple devait étudier la Torah et que c'est par ce mérite-là qu'ils ont été sauvés pour les guerres.
On dit depuis qu'il y a eu que comme il a tenté l'épée et qu'il a dit que tout celui qui étudiera pas la Torah, c'est dans ce verset-là qu'ils ont gagné les guerres.
Ah, les guerres, c'est
La
la
paix,
guerre contre le
oui.
Saint-Péril. Ok, c'est possible qu'il y a des midrashim différents. C'est sûr que l'étude de la Torah est fondamentale, mais probablement que, je veux dire, je crois y avait que la guerre, elle a eu des hauts débats, qu'il y a eu des hauts. Du moment où qui était grâce à la mitzvah du Homer, mais c'est pas on n'a pas ils n'ont pas gagné complètement grâce à cela. Simplement, ils n'ont pas été écrasés par Saint-Pierre-Rive d'abord, et après probablement ils ont gagné ultimement de façon miraculeuse. Mais on parle ici d'un mouvement de vraie guerre qui a eu lieu, tandis que l'histoire de l'épée, c'est pas une vraie guerre. C'est pendant la nuit, les gens de l'armée de Saint-Pierre, ils ont cru qu'il y avait des grands mouvements de troupes et ils se sont enfuis. Donc ils ont gagné la guerre par absence de combattants, quoi. Ils ont eu le butin, etc. Mais ils ont tué personne, hein. C'était pas nécessaire. Les gens étaient partis, les guerriers étaient partis. C'est une autre sorte de guerre. Ici, c'est une vraie guerre. Enfin, une vraie guerre. Une guerre avec des mouvements de troupes, quoi, si vous voulez. Les Rabbanan disent quelque part il les a rendus malades, quoi, tous ces séorim. Alors, et Shmuel dit que là-bas on a dit Oui, que c'était tellement mauvais que personne n'aurait voulu en manger. Sha'ala matrona achat et Rabbi Yossi. Il y a une matrone qui a interrogé Rabbi Yossi. En général, les matrones, c'est des romaines. Elle a interrogé Rabbi Yossi, elle lui a dit, Kama nitztaer oto tsadik, kama avadim ve kama shpachot yeshlo, ven mefaslin Bochalin ou Mashkin Shelo. Alors, elle lui a dit combien le tzaddik doit se souffrir.
De quel tzaddik?
Alors, on va voir tout de suite de quel tzaddik il s'agit. Kama avadim et kama shpachot yeshlo. Il a plein d'esclaves, hommes et femmes, et il lui abîme toute sa nourriture et toutes ses boissons. Amarla, kolkach lama. Pourquoi tout ça? Lo diacha shekol zman chez Israël betsar, afatsadikim avunimaen betsar. Quand les bnei Israël souffrent, alors les tsadikim souffrent avec eux. Alors, de qui est-ce que on parle ici dans cette affaire-là? C'est qui le auteur de Sadique ici? Le tzaddik en question, c'est Heskel, oui. Parce que les Mefarshim, ils expliquent que quand quelqu'un devenait un navi, ça faisait partie des. Un navi, un prophète, pardon. Alors, il dit le Pérouse du Marzou, il dit que ça fait partie des tnaïm, des conditions pour être navi, chez Yéhachir. Vehem avun poslin mi lechol lechem ze velama tzivalo lechol velachon apsikta shen vazin vemachal. C'est-à-dire que ils abîmaient la nourriture. Combien il doit souffrir effectivement d'avoir tous ces esclaves là et qui lui abîment tout quoi. Alors il lui a expliqué. Kozman chez Israël Betsar, alors les Tzadikim doivent souffrir. Comme à cette époque-là, les Bnei Israël étaient en souffrance, et Heskel, c'est la destruction du prince du Beth Amikdash. Alors les Tzadikim doivent, lui aussi, comme Tzadik, il doit aussi souffrir. Il ne peut pas être très à l'aise et tout le monde souffre. Je crois que c'est une espèce de rajout qui est, qui n'a pas directement à voir avec ce qui est dit dans dans notre Midrash ici. Comme on a dit que, effectivement, il était obligé de manger des choses qui le rendaient malade, des choses que même un chien n'aurait pas voulu les manger. Obligé de manger une nourriture aussi infecte. On lui dit, mais c'est normal, les tzadikim, ils sont obligatoirement en phase avec le peuple. Amar Rablevi, pardon, Rablevi Amar, Ishe Amda Lahem Bimei Haman, la mitzvah du Homer, Elle a protégé les Bnei Israël aussi à l'époque d'Aman. De Haman. D'Amar Ablevi, Kivan Shera Mordechai et Haman, Bakenegdo. Quand Mordechai a vu que Haman venait à sa rencontre, après qu'Haman ait reçu l'ordre de promener Mordechai à travers la ville, assis sur le cheval royal, etc. Il a vu que Haman arrivait avec son cheval, avec le cheval à la main. Amar, Domehani, Shen Rachazeba, Ela Leorgeni. Mordechai s'est dit, ce type-là, il a l'air d'arriver pour me tuer. Mordechai pensait qu'il allait le tuer. Vavun Talmidoi Yatvin Tanyan Tamri. Et les élèves étaient assis, ils étaient en train d'étudier sous la direction de Mordechai. Amar Lahem Imdu Ubarchu. Levez-vous et fuyez. Shema Kavu Begachalti. De peur que vous soyez brûlés par mes braises, ça veut dire il va me faire du mal et peut-être comme vous êtes là, vous allez souffrir aussi. Alors il a dit à ses élèves, partez, fuyez. Amroulé, ben liktol, ben lechaye, ananimach. Je dis même si pour être tué ou bien ou pour vivre, peu importe, nous sommes avec toi. Velo nishbikach, on t'abandonnera pas. Maasa, qu'est-ce que Mordechai a fait? Il betalito, bitfila, Alors il a mis son talit sur la tête, enveloppé dans son talit, et il s'est mis à prier. Tanyan. Et les élèves se sont mis ils se sont assis pour étudier. Amar Lahem, alors Aman a demandé aux élèves, Bama Atem Oskim, vous connaissez, il leur a demandé, qu'est-ce que vous étudiez? Amroulo Bemitzvata Omer. Ils lui ont dit, on étudie la mitzvah du Omer. Shayu Israël Makrivim Bamigdash Bayomazé. Et Bnei Israël, ils amenaient ce jour-là. Ça veut dire qu'on était quel jour? On était le deuxième jour de Pessah. Ce jour-là, ils amenaient. Donc, c'est l'habitude d'étudier le sujet de la fête, le jour de la fête. Donc, le jour où on amène le homer, il y a une mitzvah d'étudier le homer, la mitzvah du homer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amar le Hon, alors Aman leur a dit, Adin Umra, de Mayaver, ce homer qu'il fallait apporter, en quoi il était? C'était de l'or ou de l'argent? Ils ont dit non, c'était de l'orge. Amar le Hon, de Kama ve Timididei, de Asara Kentarin, combien il y en avait de... C'était 10 tonnes, ou je sais pas combien c'est, ça doit être une quantité astronomique. Amroulé, Sagin, Asramanin. Ils ont dit, c'est 10 mesures. Amar le Hon, Poumou, levez-vous. Denitzku aseret, Minchon, la aseret alafim, Kantraya de Kaspa. Regardez, vos 10 à vous, ils étaient plus forts que mes 10 000, à quoi, 10 000 sacs d'argent. Kevan, Dishmat Esther Ken, quand Esther a entendu cela, Afakat Kruz, Bechol Medinta. Elle a publié un, elle a dit, enfin, publié quelque chose dans tout le pays. Ve'amra, lo yiftach barnach chanut b'goshuka. Personne ne doit ouvrir un magasin dans le marché. Kol ama yifkun le'on. C'est-à-dire, tout le monde, personne ne doit ouvrir de marché, de magasin dans le marché. Oui, pas de business du tout. Tous les gens doivent chômer. Et tout le monde doit venir regarder les honneurs qui sont faits à Mordechai. Allez voir comment Shilton de Yehudim rotsim la'aloto velirot kvodo ba'ir. On veut que tout le monde aille voir le kavod qui est fait à Mordechai. Et sa kavana, c'était qu'il fallait ouvrir un moment d'espoir au Bnei Israël qui était Betsar, parce que tout le monde était avec cette épée de Damoclès, Aman qui avait décidé de tuer tout le monde. Donc tout le monde était triste, tout le monde était soucieux, et Esther, elle voulait ouvrir un espoir. Elle voulait aussi que les goyim aient peur de s'attaquer aux juifs quand ils verront combien Mordechai est honoré par le roi. Ivan de Chassal min Salé. Mordechai a fini sa tfila, sa prière. Amar Haman le Mordechai. Haman a dit à Mordechai, le Vouchaden pour Pira. Il lui a dit, mets ce vêtement royal. Ve'avaden klila al-recher. Mets sur ta tête cette couronne-là. Le sac rachoub aden soucia. Et grimpe sur ce cheval. Amarley. Mordechai a dit à Aman, Chotei chez Baolam. C'est une drôle d'expression, ça veut dire. Crétin du monde, quoi. Crétin idiot universel, je sais pas. Let at yada ze'ana min saka ou min kitma. Il lui a dit, tu ne sais pas que moi, je suis en deuil. Je vois pas que je porte sac va-et-faire, c'est-à-dire les vêtements de deuil qu'il avait revêtus à ce moment-là. It barnash, la biche pour pirate et malta de l'Ofsahi. Est-ce que quelqu'un peut passer comme ça d'un vêtement de deuil à un vêtement royal pour prendre une douche, non? Mat bae de Bazouya le Malkuta, est-ce que tu veux manifester un mépris pour les vêtements royaux? Je ne peux pas mettre des vêtements royaux sans mettre préalablement laver, etc., alors que je suis couvert de cendres en signe de deuil. Azal bedil balnae velo ashkeche. Aman, il est allé chercher un, comment on dit, un type qui va baigner. Comment on appelle? Un balan. On dit. Oui, voilà, ouais, l'employé du bain. Quelqu'un qui va laver Mordechai. Mais il n'a pas trouvé. N'y avait aucun qui était disponible. Ma'avad, Asar Maté Misouté, Velo Masgué, Knaché, Vealasré, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a mis des vêtements lui-même, il s'est déguisé en balade. Il a pris un tablier, je sais pas quoi, des gants et tout, et une brosse à reluire, enfin, je sais pas. Kivan de Chassal, la vache pour Pira. Ok, quand il a fini, Mordechai, il a mis son vêtement royal. Amarle, Havadin Klila, de Malka, Brochach. Il lui a dit, alors, mets la couronne royale maintenant sur ta tête. Il lui a dit, Barnache, Yaïb Klila de Malka Bereshé Velom Issaper. Est-ce que un homme peut mettre la couronne royale sans s'être d'abord coupé les cheveux? Ipnema Ad Baele Bizouye. Pourquoi tu veux absolument dégrader l'image de la royauté? Azal Begin Safra Velo. Il a cherché un coiffeur, il n'a pas trouvé. Mavid. Voilà, il a cherché des ciseaux et, enfin, je sais pas, bon, après, il était vachement confiant. Ah. Mais il paraît que c'était un ancien coiffeur, Aman. Andaveyati, vous me saperlez, Charematnach. Il était en train de le coiffer. Et, Amarle Malach, il s'est senti mal, quoi.
Qui
Aman. Gavra, Mata Eloui, Man David, Kumus Bagron. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que il lui a dit, il avait quelque chose, je sais pas, dans la gorge. Macharia, on a cherché quelqu'un qui sache faire tout ça, et j'ai pas trouvé. Montraya, Bikesh Menu. Mordechai a demandé s'il sera le fanav, qu'il devait s'y aller à l'avenir propre. Il devait monter sur le cheval, mais les capacités de Mordechai pour monter sur un cheval royal étaient limitées. Amarle, let be koach, dana gvar sav. Je suis un vieillard, j'ai pas la force. Amar, Veletana, Gvar Sav. Alors Aman a dit, moi je ne suis pas un vieillard, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Amar, Vela Bar, At, Grant, Nafshar. Mais est-ce que t'es pas là par ta propre faute? Il lui a dit, Koum, Dana, Mimichlar, Kadel. Udrosalai, Vesuk, Vrochevadin, c'est-à-dire, voilà, il s'est accroupi et Mordechai, il a grimpé sur Aman, sur le dos d'Aman, et de là, il a pu monter sur le cheval royal. C'est un pasouk qui dit, justement, ils vont s'affaiblir tes ennemis et toi, tu vas sur leurs bamotes, sur leurs hôtels, en fait, tu vas marcher. Ivan Shirachav à la sousse, Itril, Mekalesh la Kadosh Baruch Hu. Quand Mordechai était sur le cheval, il a commencé à dire des louanges d'Hachem. Amar, il a dit, le Tehilim, Avomim Cha Hachem, qui dit l'Italie, Hachem Elokai, Shivati Elecha, Vatreini. Alors, lui, il a remercié Hachem avec ce Teilim. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zamrou Hachem Chassidav, Odol Zecher Kodcho, qui regabapo, etc. Et qu'est-ce que Aman a dit, lui? Vani Amar, tu veux salver. Lui, il a dit la fin de Tehilim. Irtsoncha et Esther, qu'est-ce qu'elle a dit? Elecha Hashem Ekra, ma betsa bedami, beriti el shachal, shachat ayudcha, afar yagid amitecha, Israël ma'amru, shma Hashem bekoneini, le gomer, partam ispedi le macholi, amara pinchas, ou bekriat shema ayaosek, ולא הפסיק, שנאמר למען זמרך כבוד. Bon, alors, le Midrash termine en disant que chacun a dit sa part de Tehilim. Et Rav Pinchas a dit qu'en vérité, c'est pas du tout ça. Sur le cheval, Mordechai, il a dit Kriyat Shema, il n'a pas arrêté de dire le chemin tout le long du chemin. Avec ça, on termine le chapitre sur le Homer, sur ce Homer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette marloquette de, est-ce qu'ils ont dit les Teilim ou bien est-ce que il a dit Shema? On entend, quand on dit qu'il a dit Kriyat Shema, ça veut dire qu'en fait, il était Mekabel Ol Malchut Shamayim. Ça veut dire qu'il acceptait le joug du ciel sur lui. Ça, c'est le vrai Kavod. Parce qu'il a ressenti le Kavod d'Hachem en lui. C'est plus que de chanter les louanges d'Hachem. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a vu dans ce Midrash pour terminer un peu rapidement? On a vu que cette mitzvah du Homer, elle a protégé le clan Israël dans toutes les situations. Et donc, on n'a pas fini, en fait, de dire combien cette mitzvah de Homer était importante. Combien ça bat tous les records qu'on entend. On a dit d'abord les grands points, et après, on dit, mais dans toutes les générations, on a bénéficié de la protection de cette mitzvah du Homer. Si c'est juste, ça veut dire que la chose la plus importante, c'est de reconnaître combien nous sommes redevables à Hachem. C'est le problème de la reconnaissance de l'Hakarat HaTov. Si on reconnaît notre dette à l'égard d'Hachem, alors on est protégé. Parce que quelque part, on est sous la protection d'Hachem à partir du moment où on reconnaît que voilà, on est là parce que l'Hachem nous a mis ici et on est au service d'Hachem. Et du coup, on bénéficie de la protection d'Hachem dans toutes les sortes de situations. Vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe avec toutes les situations où on a souffert, etc. Il faut comprendre que ça aussi, ça fait partie de la condition de serviteur d'Hachem. On doit faire ce qu'Hachem nous, enfin, Hachem nous a mis dans le monde pour jouer un certain rôle. Et dans ce rôle-là, il y a des épisodes très positifs, où on voit clairement qu'Hachem nous a protégés, et des épisodes où on ne voit pas clairement peut-être qu'il nous a protégés, mais que si on regarde vraiment, et peut-être si on regarde sur le long terme, on s'aperçoit que c'était positif. C'est difficile dans certains cas, c'est difficile de dire en quoi c'était positif, mais il y a des situations dans lesquelles, effectivement, on doit faire confiance que Hachem veut notre bien. Il nous le montre des fois très clairement. Et Hachem, il ne change pas. Il ne peut pas un jour vouloir le bien, un jour vouloir le mal. Il veut notre bien, mais des fois, le bien, il passe par des choses, des fois très difficiles. Mais l'important, c'est à Karakatov. On a, d'une certaine manière, on est toujours débiteur par rapport à Hachem. Voilà, voilà ce que je voulais dire sur cette, voilà, ce midrash sur cette mitzvah du Homer. C'est assez surprenant, la richesse de ce midrash sur cette petite mitzvah du Homer. Je n'ai jamais pris conscience de l'importance de cette mitzvah. On voit bien que la tendance est de la prendre à la légère, puisque Rabbi Yochanan et Reish Lakish disent, ne prends pas cette mitzvah à la légère. L'expression est, elle est là pour dire que c'est bien qu'on a tendance à la prendre à la légère. Elle apporte un peu d'orge, de nourriture animale. Voilà.